C'est le banquet, écoute-moi, le banquet de Saint.
Rue des Granges, pas de
Rue des Majots, le rendez-vous de la Maison du Théâtre. Un programme non essentiel, une émission contagieuse. Nous avions envie depuis longtemps, à la Maison du Théâtre, de faire entendre des textes de théâtre à la radio. Cette période de confinement nous a offert du temps pour cela. Nous recevons aujourd'hui l'autrice et metteuse en scène Léa Chansolme pour sa dernière création « Et on est toutes parties ».
Mon téléphone portable affiche 13h42. Il me reste presque un quart d'heure avant de retourner en salle de réunion. 13h42. Pas tout à fait 13h45, on reprend à 14h. Ça me laisse le temps de faire un petit pipi ou d'allumer une autre cigarette alors que je viens d'en terminer une. Mais quand même, il me reste un quart d'heure de liberté. Je sens le soleil d'automne sur ma peau. Je m'asphyxie de nicotine en vitesse. Regarde l'heure sur mon téléphone à nouveau. Véro encore aux toilettes. Après ma clope, il faut que j'aille aux toilettes. Sinon, je vais encore me retenir de faire pipi tout l'après-midi. Ma cigarette est presque terminée. Mon téléphone vibre. Texto de Greg, mon responsable. Merci pour le double cappuccino crème ce matin, tu es la meilleure. Émoticône pouce levé. Dernière bouffée de cigarette. Le soleil fait tellement de bien. Véro est sorti des toilettes. Dis donc, c'était long, il y avait la queue. Il est 13h53. J'écrase ma cigarette par terre. On est au petit café du coin, à 3 minutes seulement de la salle de réunion. Je réponds à Greg, c'est toi le meilleur. Émoticône clin d'œil. Je cours aux toilettes. Véro part devant. Je la rejoins tout de suite. Vite, pipi. Je défais mon pantalon, m'assois jamais sur les cuvettes des toilettes des restaurants, essaye de ne pas mettre de gouttes de pipi à côté. Mon portable vibre dans mon sac, c'est sur mon Greg qui me répond son habituel émoticône mort de rire. Je réponds pas, je gaine, je me concentre. J'aurais pas dû allumer une deuxième clope. Tous les midis, je me fais avoir. J'ai un peu de pipi sur les doigts. Vite, je tire la chasse d'eau, je sors des toilettes, me lave les mains, le séchoir pour les mains ne marche pas. Je reviens dans le restaurant. Je réalise que je n'ai pas payé mon plat du jour. C'est le bordel dans le restaurant. Véro et tous les autres doivent déjà être installés et m'attendre en salle de réunion. Je regarde encore autour de moi. Je me range dans la file des gens qui attendent pour payer et tous payent en carte bleue ou en ticket restaurant. Moi aussi, je dois liquider mes tickets restaurant avant la fin de l'année. J'attends. Dans la file des gens qui attendent. Je n'ose pas regarder l'heure sur mon téléphone. Et en tournant la tête, je vois 14h10 affiché sur l'horloge du restaurant. Un serveur croise mon regard et voit mon air de panique, les yeux rivés sur l'horloge. Il me rassure en passant à côté de moi. « Vous en faites pas, elle avance. » Je vais avoir honte de rentrer en salle de réunion maintenant. Et c'est important en plus cette réunion. Je regarde encore autour de moi. Croise à nouveau le regard du serveur qui fait des allées et venues dans le restaurant. J'entends le bruit des couverts. Des gens qui parlent fort. Le soleil cogne contre les vitres du restaurant. Les voitures, les scooters et les bus klaxonnent. Dehors, mes jambes commencent à se diriger vers l'extérieur sans que personne, pas même moi, ne le remarque. Je pousse la porte du restaurant. Le bruit des voitures, scooters et bus devient plus présent. Personne ne remarque que je suis sortie de la file d'attente et sortie du restaurant, sans payer. Mes jambes continuent d'avancer à ma place. Elles traversent la rue. Elles ne vont pas à droite. Non. Elles ne vont pas vers la salle de réunion où tout le monde m'attend. Ça doit faire 10 bonnes minutes que l'on m'attend maintenant. Mon téléphone portable vibre dans mon sac. C'est sur mon Véro qui s'inquiète et qui se fait engueuler à ma place. Je laisse sonner. Une fois la rue traversée, je vais à gauche, puis tourne au prochain angle à droite.
Tu sens
bienvenue dans l'émission Rue des Majots. Vous venez d'entendre un extrait d'Et on est toutes parties, pièce de Léa Chansolme, coécrite avec Kevin Case. Extrait lu par Léa Chansolme, notre invitée d'aujourd'hui. Bonjour Léa.
Bonjour.
Léa, tu es comédienne, autrice et metteuse en scène. Formée à l'école Jean Périmoni et à l'école Auvray de Roy à Paris.
C'est ça.
Tu diriges la compagnie Kémas.
Oui.
Compagnie avec laquelle tu as créé Casimir et Caroline d'Odon von Horvath en 2015.
C'est ça.
À Marseille, au théâtre du Gymnase. Et on est toutes parties, que tu viens de créer à la Mannequin, à Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise.
Oui.
Pièce qui sera accueillie la saison prochaine à la Maison du Théâtre à Amiens et qui a déjà quelques dates en tournée pour la saison prochaine.
Voilà, c'est ça, à la Mannequin notamment, là où on a créé le spectacle, où on devait le jouer et puis on va voilà, le reporter.
Alors, le pitch. Au même moment et pour des raisons différentes, trois femmes rompent soudain avec leur quotidien. Elles quittent leur vie, leur ville et leur destin pour se rendre au-devant d'un immense mur qui défend l'accès de ce que l'on nomme la zone. C'est une histoire singulière, un road movie, qu'une dimension très cinématographique. C'est une histoire d'émancipation féminine. Tu as écrit à ce propos que tu as le sentiment que les femmes continuent de porter en elles les censures des générations antérieures. Contre quelles censures souhaites-tu ouvrir un chemin à travers cette pièce ? Quelles sont ces censures ?
Ah, alors,
que tu souhaites combattre ?
Quelles sont ces censures ? Déjà, voilà, on est toutes parties, on suit trois femmes, donc Jane, Jenny et Jenna, qui, voilà, comme tu l'as dit dans le résumé, qui quittent tout du jour au lendemain. Et c'est vraiment une histoire de libération. Est-ce que j'ai envie de tout quitter ? Enfin, moi, je me suis déjà posé la question, par exemple, est-ce que ce serait possible de tout plaquer comme ça, travail, amis, famille, et pour quelles raisons ? Pour aller où ? Et par rapport aux censures des générations, disons que c'est... En tout cas, on a trois personnages féminins qui font des choix pour elles-mêmes. Voilà. Et qui n'en font pas en fonction de ce qu'on attend d'elles ou d'un regard masculin imposé sur elles. C'est vraiment... cette pièce, c'est un voyage, une traversée vers des mondes différents. Elles vont tenter d'accéder à la zone, qui est un endroit interdit, dont elles savent très peu de choses, à part une des trois qui est archéologue et qui doit faire des recherches dans cette zone. Mais sinon, les autres, elles ont vraiment comme une boussole interne qui les guide vers cet endroit. Elles ne savent pas pourquoi elles sont attirées, elles sont aimantées par cette frontière. En fait, il y a un mur... qui sépare leur monde de la zone, voilà. Ça parle vraiment de comment on se libère pour nous-mêmes.
Alors cette zone, lieu de science-fiction, lieu de réalisation de soi-même, c'est très très symbolique.
Oui, elle est vraiment écrite comme un lieu géographique. Hein. Très précis, avec des changements climatiques assez importants. Elle prend plusieurs aspects climatiques, cette zone, dans la pièce, en tout cas. Et elle évolue aussi en fonction de l'évolution de ces femmes-là. C'est-à-dire que ça pourrait être comme leur paysage intérieur. On pourrait dire ça comme ça. Et du coup, au début, la zone, elle a l'aspect d'un désert sec, aride, qu'il faut traverser, où on a soif, où il fait chaud, tout est épuisant, etc. Et au fur et à mesure du voyage, elle se transforme. Voilà. J'en dis pas plus, parce qu'il y a des découvertes à faire, justement.
Alors, pour atteindre cette zone, il y a un gardien.
Oui. Il y a un garde-frontière.
Donc, dans la pièce, un comédien joue tous les hommes.
Oui.
Formellement, il est au service de trois comédiennes.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Et paradoxalement, il est aussi le personnage qui les empêche. Il est à la fois le mari, qui on veut partir, lui, dans la zone, le gardien, qui est interdit de franchir le mur de la zone. Alors, en regard de cette émancipation féminine, quel chemin prendre pour les hommes ?
Alors, bah justement, voilà, donc le comédien est chanteur aussi parce qu'il chante et joue de la musique, il joue de la basse et du piano aussi. Arthur Leparc, donc, joue tous les rôles masculins de la pièce. Donc, il, voilà, c'est des hommes qui se font quitter. c'est plutôt les hommes qui partagent la vie de ces trois femmes-là au départ. Et ensuite, au moment du passage de la frontière, ils jouent un garde qui est qui leur fait toutes sortes de chantage, etc. pour pas qu'elles puissent franchir la frontière. Nous, en tout cas, dans la manière dont ce parcours est écrit, enfin dont ces rôles sont écrits, on l'a vraiment pensé comme un seul et même parcours. C'est-à-dire qu'on s'est dit, une seule personne va prendre tout ça en charge et ça va nous raconter quelque chose du masculin, avec plein d'aspects différents, justement. Déjà, les trois personnages, les petits copains et le garde-frontière sont tous les trois très différents. Et en même temps, on triche pas, on reconnaît que c'est le même comédien qui les joue et ça apporte quelque chose d'assez troublant dans les sensations. Et pareil, tout ce qu'il prend en charge ensuite musicalement, avec des voix qui changent, qui sont beaucoup plus féminines aussi, les voix qu'il peut prendre quand il chante. Donc du coup, on a voulu aussi raconter une transformation du masculin au fur et à mesure de cette pièce, mais un petit peu à son insu. C'est comme si au début, ce personnage du garde-frontière qui n'est jamais sorti de sa petite guérite et qui est perdu au milieu de l'Alaska où on sait pas trop où il est. On sait pas non plus s'il a déjà vu des femmes dans sa vie. C'est comme s'il appelait à lui une grande aventure. C'est comme s'il les appelait, en fait. Et c'est comme s'il appelait lui aussi à sa propre libération.
Léa, tu as été assistante sur plusieurs de ces pièces de Jean-Pierre Vincent, grand homme de théâtre, décédé en novembre dernier. Comédien, pédagogue, metteur en scène, directeur de grands théâtres, du Théâtre National de Strasbourg, la Comédie Française et bien d'autres. En quoi t'inspire-t-il dans ton travail aujourd'hui ?
Oh là là. Il nous manque. il manque. Tout ce que j'ai fait avec lui, voilà, je l'ai accompagné à la mise en scène sur les deux dernières pièces qu'il a faites. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est la passion pour le jeu d'acteur. Enfin, vraiment, le fait que tout s'entende, que tous les mots parviennent au spectateur, que ce soit limpide, qu'un texte, comment rendre un texte moderne, limpide, clair, enfin voilà, pour des oreilles d'aujourd'hui, un texte, alors en l'occurrence avec lui, j'ai travaillé sur deux textes classiques, c'était Iphigénie en Tauride de Goethe et Georges Dandin de Molière, mais il avait exactement la même façon de voir les choses pour les textes plus contemporains, enfin... Donc vraiment ça a été un bagage énorme pour moi-même attaquer la création de et on est toutes parties en janvier. Quand on répétait, j'avais vraiment les restes de tout ça.
La fusion.
C'était un vraiment une très grande chance de pouvoir l'accompagner sur ses créations et surtout de suivre les spectacles en tournée beaucoup, enfin pendant 4 ans, et de se faire un œil en fait, et une oreille de spectateur, voilà.
Oui. Alors en préparant cette émission, nous t'avons demandé si tu aimerais partager un texte avec les auditeurs de Radio Campus.
Oui.
Ton choix s'est porté sur La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson.
Oui.
Pourquoi ce texte et quel extrait ?
Alors je l'ai lu, ce texte je l'ai découvert pendant le confinement dernier. Moi j'avais la chance d'être à la campagne, donc ça, voilà, la nature, tout ce que Sylvain Tesson cherche en cherchant cette panthère des neiges, ça m'a énormément parlé, voilà. Et l'extrait, c'est un extrait du chapitre qui s'appelle « L'amour dans la forêt », où il parle d'une ancienne compagne qu'il a eue, qui était profondément liée à la nature et qui habite dans les Landes. Et voilà, et c'était sa vie. Enfin, elle faisait partie d'un tout, dans la manière dont il l'a décrit, voilà, avec son environnement, la nature. Et ça m'a fait penser, évidemment, et on est toutes parties. Si vous venez voir le spectacle, vous comprendrez pourquoi. Et voilà, donc c'est un texte qui c'est un portrait de femme qui me touche beaucoup.
Alors, nous écoutons tout de suite un extrait de La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, paru aux éditions Gallimard, par Léa Chansolme.
On rentrait à la cabane par les pistes souples. Ses cheveux à présent sentaient le cierge. Pour elle, les arbres bruissaient de froissements pleins de sens. Les feuilles étaient un alphabet. Les oiseaux ne vocalisent pas pour la gloriole, disait-elle. Ils chantent des hymnes patriotiques ou des sérénades. Je suis chez moi, je t'aime. Nous arrivions dans la cabane et elle débouchait un vin de Loire, de sable et de brume. Je buvais à mort, le venin rouge me gonflait les veines. La nuit montait en moi. Une chouette effraie criait. Je la connais, c'est celle du quartier, le génie de la nuit, le général en chef des arbres morts. C'était l'une de ses obsessions. Refaire une classification des êtres vivants, non plus selon la méthode structurelle des parentèles de Linné, mais selon un ordre transversal qui rassemblerait les dispositions des bêtes et des plantes confondues. Il y avait ainsi le génie de la voracité, que partageraient le requin et la plante carnivore, le génie de la détente, apanage de l'araignée sauteuse ou du kangourou, le génie de la longévité, blason de la tortue ou du séquoia, celui de la dissimulation, incarné par le caméléon ou le phasme. Peu importait que ces êtres vivants n'appartinssent pas au même phylum biologique du moment qu'ils fussent dotés des mêmes talents. Ainsi concluait-elle qu'un coucou et une douve, par leur science de l'opportunité et la fine connaissance de leurs victimes, sont plus semblables l'un à l'autre qu'ils ne sont proches de certains membres de leur propre famille. Le monde vivant déployait devant elle la panoplie des stratégies de la guerre, de l'amour et du mouvement. Elle se levait pour rentrer les chevaux sous l'abri. C'était une vision pré-raphaélite. Une femme lente, dure, claire et précise, allant sous la lune, suivie de son chat, d'une oie, de chevaux sans licole et d'un chien. Manquait une panthère sous les constellations. Tous glissaient la tête haute, sans frôlement ni bruit, sans se toucher, parfaitement alignés et parfaitement distants, certains dans leur direction. Une troupe en ordre. Les bêtes s'étaient mises en mouvement comme des ressorts au plus léger frémissement de leur maîtresse. Elle était une sœur de saint François d'Assise. Si elle avait cru en Dieu, elle aurait rejoint un ordre de la pauvreté et de la mort, un communisme mystique et nocturne où l'on se serait adressé à Dieu sans les intermédiaires de la cléricature. D'ailleurs, son commerce avec les bêtes était une prière. Je la perdis. Elle ne voulut pas de moi parce que je refusais de me livrer pieds et poings liés à l'amour de la nature. Nous aurions vécu dans un domaine, dans une forêt profonde, une cabane ou une ruine dévolue à la contemplation des bêtes. Le rêve s'évanouit et je la vis s'éloigner aussi doucement qu'elle s'était avancée, flanquée de ses bêtes dans la forêt du soir. Je repris ma route, multipliant les voyages, sautant de l'avion pour reprendre le train et glapissant de conférence en conférence et d'une voix pénétrée que l'homme aurait tout intérêt à cesser de s'agiter. Je courais la terre et à chaque fois que je croisais une bête, c'était son visage évanoui qui m'apparaissait. Je la suivais partout. Quand Munier m'avait parlé de la panthère des neiges sur les bords de la Moselle, il ne savait pas qu'il me proposait d'aller la retrouver. Si je croisais la bête, mon seul amour apparaîtrait, incorporé à la panthère. J'offrirais chacune de mes rencontres à son souvenir défait.
C'était notre émission Rue des Majots avec Léa Chansolm, co-autrice avec Kevin Case et metteuse en scène dès On est toutes parties, à découvrir la saison prochaine dans la programmation de la Maison du Théâtre à Amiens. Merci Léa Chansolm.
Merci beaucoup.
Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site radiocampus.fr. Nous nous retrouverons dans 15 jours. D'ici là, bonne lecture.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater.